Libre FM, les infos.
Nous sommes au dernier virage de la fête de Ramadan. Le grand marché de Bamako, comme les autres années, est plein à craquer. Pour l'occasion, la rédaction a réalisé une série de reportages au grand marché de la capitale. Les détails dans cette édition. Le collectif des fédérations des transporteurs routiers et chauffeurs routiers du Mali projette d'observer une grève de 72 heures à partir du 2 mai 2023. L'annonce a été faite au cours d'un point de presse ce mercredi. Le développement dans un instant. Fidèles auditeurs, merci d'avoir choisi Joliba FM pour vous informer. Kouate Assanatou à la présentation et la mise en onde est assurée par Moussa Sanogo. Nous commençons ce journal par les préparatifs de la fête de Ramadan. Nous sommes à quelques jours de la fête exactement de Ramadan. Comme toutes les autres années, le grand marché de Bamako est plein à craquer. Cependant, vendeurs et clients dénoncent l'acharté de la vie. Notre reporter Mamadou Dimari Sissoko a fait un tour au grand marché.
Les grands marchés de Bamako vibrent déjà au rythme de la fête de Ramadan. Sous un soleil de plomb, ces vendeurs de chaussures et d'habits prennent en otage les bordures de la route. Ils chantent et dansent pour attirer la clientèle. Pour eux, l'affluence est timide comparativement à l'année précédente.
On fait la vente promotionnelle des chaussures ici. Le prix des chaussures pour enfants varie entre 2500, 3000 jusqu'à 4000 francs CFA. Malgré tout cela, les clients se plaignent du prix. Les clients viennent, mais ce n'est pas comme l'année passée. C'est la vie même qui est actuellement chère. Tout a augmenté, mais tout compte fait, on arrive à se frotter les mains un peu.
L'année passée, j'ai fait beaucoup de bénéfices, mais cette année, ce n'est pas aussi que ça. Les clients viennent, mais ils se plaignent du prix des articles, alors que cela n'est pas de notre faute.
Je vends des vêtements pour enfants. Le marché est très lent cette année. Une fois que tu dis le prix des articles, le client refuse. Je vends les vêtements pour enfants, le complet à 7000 francs CFA. Mais je suis obligé de vendre mes articles à 6000 francs, voire 5000 francs pour ne pas perdre.
Fatmata Dramé est venue acheter les chaussures pour ses enfants. Après une longue négociation avec les vendeurs, elle repart mécontente avec une seule paire de chaussures.
Le marché est très cher. J'ai l'habitude d'acheter les chaussures pour enfants à 2000 francs CFA. Je lui ai supplié pour qu'il me vende la paire de chaussures à 2000 francs. Il refuse. Je suis obligée de l'acheter à 3000 francs.
Si cette dernière pense que les articles sont chers, Geneva Soumano pense autrement. Pour elle, les prix sont abordables.
C'est bientôt la fête, donc je suis là pour acheter des chaussures pour mes enfants. Pour moi, le prix est abordable. J'ai acheté la paire de chaussures à 2500 francs CFA.
Le mois de Ramadan, faut-il le rappeler, a coïncidé cette année avec la cherté de la vie. La fête de Ramadan marque la fin de la période de jeûne et le premier jour du mois suivant après qu'une autre nouvelle lune a été repérée.
Toujours dans la même mouvance, le marché de légumes de Bamako, communément appelé Woninda, est envahi par les vendeuses de légumes installées en longue file. Cette année, les commerçants constatent une baisse du nombre de clients par rapport à l'année précédente. Serendouba a fait un tour sur les lieux. Suivant.
De par la variété de légumes qui s'y trouvent, Wourokour est un marché connu par beaucoup de Bamakois. Les vendeuses de légumes sont les principales animatrices. Les vendeuses attendent impatiemment les clients sur leurs chaises longues, des tables remplies de choux, oignons, pommes de terre, aubergines, etc. Le marché est morose pour nous et nos clients. Les clients ne sont pas au rendez-vous comme les années précédentes. Mariam Sissoko, vendeuse.
Les gens n'ont pas d'argent et les légumes sont chers en ce moment, contrairement à l'année passée.
Aïssata Guindo, vendeuse.
Vraiment, ce mois de Ramadan a été difficile pour nous car il n'y avait pas de clients.
Les prix des légumes sont très abordables par rapport aux années précédentes, même si les vendeuses pensent que le marché n'est pas affût selon Désiré Kargogou, client.
Bon, je trouve quand même que les prix sont relativement abordables, quand même, je trouve. Hein. Vu le kilo de pommes de terre que j'ai acheté, je pense que ça va dans l'ensemble. Bon, pour l'instant, voilà, je continue ma tournée. Je verrai comment vont évoluer les prix avec le reste.
Pour les préparatifs de la fête, certains y arrivent à faire leurs achats. Par contre, d'autres continuent de fouiner d'autres marchés pour mieux préparer la fête.
Actuellement, le couteau est l'un des outils les plus sollicités. Cette forte sollicitation de cet instrument est due à l'approche de la fête de Ramadan. Cependant, les vendeurs et les aiguiseurs de couteaux pensent que le marché n'est pas aussi affluent que les années précédentes. Le reportage avec Idrissa Sagara.
Comme chaque année, à l'occasion des préparatifs de la fête de Ramadan, beaucoup de citoyens soit achètent des nouveaux couteaux, soit aiguisent les anciens pour pouvoir mieux écorcher les animaux les jours de la fête. Par contre, pour les vendeurs, cette année, le marché des couteaux n'est pas aussi affluent que l'année dernière.
Bon, le marché n'est pas comme on l'attendait, mais on ne se plaint pas trop, car c'est pendant la fête des Tabaski que les couteaux sont beaucoup sollicités. Franchement, nous, on n'a pas connu de changement. Le marché est comme les années passées. Cette année, le marché n'est pas comme prévu. C'est trop lent. Les clients pensent que nos produits sont chers, alors que nous-mêmes, nous les achetons chers. Et quand tu leur dis que les prix ont augmenté, ils ne comprennent pas. Dans la journée, on peut vendre entre 75 000 à 100 000, alors que l'année passée, on vendait les deux.
Moussa Silla, aiguiseur de couteaux.
Cette année, le marché n'est pas comme les années précédentes. Dans les années passées, le marché était très affluent pendant les 10 derniers jours de la fête. Mais cette année, depuis le matin, je n'ai eu qu'une dizaine de clients et on est à 3 jours de la fête. Hier, de toute la journée, je n'ai aiguisé qu'une cinquantaine de couteaux. Tandis que les années précédentes, les clients nous amènent des sacs remplis de couteaux.
Pour les clients, les prix des couteaux sont très chers par rapport aux années précédentes. Arnaud Napo, client.
On paye les couteaux pour la fête et chacun de nous a besoin de couteaux pour faire la fête. Mais cette année, le prix des couteaux a vraiment augmenté. Avant, on les payait à 750 francs, 800 francs, mais maintenant tout est au-dessus des 1000 francs. En une année, plus de 250 francs d'augmentation sur le prix d'un seul couteau. Vous voyez que c'est incompréhensible. À cause de la crise du pays, tout est devenu cher et parfois la crise n'a aucun effet sur certains produits, mais malheureusement, les vendeurs en profitent pour augmenter le prix.
À savoir que pour cette fête, le prix de chaque outil qui entre dans le cadre des préparatifs de la fête de Ramadan est considéré un peu plus élevé par rapport aux années précédentes.
L'actualité hors de nos frontières à présent avec Sokuna Djakite. Bonsoir Sokuna.
Bonsoir Sanatou, bonsoir chers auditeurs.
Au Soudan, difficile pour les alliés et ennemis de choisir un camp.
À Khartoum, la guerre pour le pouvoir oppose deux généraux, mais en réalité, de bien plus nombreux acteurs sont impliqués, car les deux camps ont tissé un réseau d'alliés et d'ennemis politiques, économiques et diplomatique dans une région en plein chamboulement, indiquent les informations. Le Soudan aurait de longue date été courtisé pour ses ressources et son emplacement stratégique sur la mer Rouge. Russes et Émiratis auraient aujourd'hui la main mise sur les ports, le sous-sol gorgé d'or, largement tenu selon les experts par les paramilitaires des forces de soutien rapide. Leur patron est en guerre depuis samedi contre le commandant de l'armée Abdel Fattah al-Burhan. Pour rappel, lors du putsch en 2021, les deux hommes avaient fait front commun pour évincer les civils du pouvoir, mais depuis des décennies, ils auraient chacun leurs propres alliés et sources de revenus.
Faisons un tour au Nigeria où la désinformation traduit une démonétisation des institutions.
Au Nigeria, les opérations de désinformation qui visent actuellement la commission électorale et les juges de la Cour suprême appelés à statuer sur la présidentielle révéleraient un vaste discrédit des institutions dans le pays le plus peuplé d'Afrique selon les experts. Si les élections au Nigeria se caractérisent souvent par l'achat de voix et la violence, les défaillances techniques et les retards dans la transmission des résultats observés lors du vote du 25 février alimentent cette fois une désinformation galopante. Les candidats arrivés derrière le vainqueur déclaré à la présidentielle, Bola Tinubu, représentants du parti au pouvoir, Atiku Abubakar et Peter Obi, respectivement deuxième et troisième, ont saisi fin mars la justice pour contester les résultats. Les experts prévoient que ces recours arrivent jusqu'à la Cour suprême, comme lors de la précédente présidentielle en 2019. Dans ce contexte particulièrement sensible, le service fact-check d'une célèbre agence de presse aurait démonté des dizaines d'informations erronées autour de ces élections, y compris une photo censée montrer le président élu Tinubu en train de corrompre à son domicile le juge en chef de la Cour suprême, Olukayode Ariwola. Sur l'image datant de 1996, il s'agirait en réalité de Bola Tinubu à Londres en compagnie d'un opposant de l'époque, Dele Momodou, qui a réfuté ces allégations sur les réseaux sociaux.
Pour terminer, ce qu'on a aux USA, il y a des nationalistes afro-américains accusés d'agir pour la Russie.
Le ministère américain de la Justice a mis en examen mardi le fondateur de trois membres d'un groupe nationaliste afro-américain accusé d'avoir collaboré avec les services de renseignement russes en vue d'influencer les élections aux États-Unis. Au Mali, Yeshi Tela, fondateur de African People's Socialist Party et du Uhuru Movement, et trois autres membres du parti Penny John S., Jesse Neville et Augustus Romain sont soupçonnés d'avoir servi comme agents au service de la Russie et conspiré contre les intérêts américains, notamment en tentant d'influencer plusieurs élections. Ils risquent jusqu'à 10 ans de prison selon l'accusation. Les quatre prévenus ont reçu de l'argent et du soutien de la part d'Alexander Leonov, un citoyen russe qui opérait sous couverture et se présentait comme le leader d'un mouvement anti-mondialisation, ainsi que de la part d'espions du FSB, les services secrets russes. D'après les informations à Sanatou, et c'est ce qui met fin à ce tour d'horizon de l'actualité hors de nos frontières.
Merci beaucoup Sokona Diakité pour toutes ces précisions. De retour au Mali, je vous le disais dans les titres, le collectif des fédérations des transporteurs routiers et chauffeurs routiers du Mali a tenu ce mercredi un point de presse. Après avoir déposé un préavis de grève le 15 avril passé auprès du gouvernement, il décide d'aller en grève de 72 heures à compter du 2 mai 2023. Quatre points de revendication sont au cœur de la dite grève. Pour en savoir plus, je vous propose d'écouter le coordinateur des syndicats des transporteurs routiers, Malika Boubou Diallo. Il est au micro d'Aminata Dede Sissoko.
Les transporteurs, dans leur consentement, sont meurtris. Ils ne sont pas entendus par notre autorité de tutelle et c'est là le désagrément. Donc nous avions constaté un complot ourdi contre les transporteurs. Cette grève qui est là, dont on a déposé un préavis le lundi 17 et qui prend effet le 2 mai à 0h, comporte quatre points essentiels. Le premier point, c'est la gestion de la fin du mandat du CFTR. C'est un mandat de 5 ans et à chaque fois qu'il y a fin de mandat, c'est ce tiraillement qui est là. Le deuxième point, c'est la gestion des fonds du droit de traversée routière. Le droit de traversée routière est un mécanisme qui a été mis en place pour favoriser et faciliter le travail des transporteurs. Troisième point, on a demandé la réhabilitation du droit de traversée routière. Parce que tu ne peux pas développer le transport sans pour autant prendre les deux préoccupations essentielles que je trouve dans le droit de traversée routière, qui est différent de la réclamation des fonds que nous sommes en train de faire. Bon, un quatrième point maintenant, c'est la suspension des vignettes. On a dit que les vignettes, c'est une forme de tracasserie. Si l'État veut effectivement profiter des vignettes, ils doivent impliquer les vignettes sur le carburant. Et ça devient une recette brute. Personne ne tirera quoi que ce soit pour profit. Et dans les jours à venir, des études techniques vont démontrer que nous avions avantage à aller autrement que ce que nous sommes en train de vivre. Déjà, nous avions préparé déjà un préavis de grève, donc la grève, ça démarre le 2 à 0 heures, ou 72 heures. Mais si nous ne sommes pas satisfaits dans les 72 heures, les autres démarches syndicales vont suivre.
La sélection nationale U17 est au Maroc, précisément à Casablanca, depuis le lundi 17 avril. Vous l'aurez compris, c'est notre page Sport. Les joueurs de Soumaïla Koulibaly doivent effectuer dans le royaume chérifien leur dernier stage de préparation avant de rejoindre l'Algérie le mardi 25 avril pour la phase finale de la CAN. Amadou Tolo.
Nous sommes au Maroc avec 26 joueurs, a déclaré le sélectionneur des Aiglonnais Soumaïla Koulibaly, joint au téléphone par nos confrères de l'Essor. À l'en croire, le groupe est confiant et se fixe comme objectif de remporter la CAN. Avec 30 joueurs au départ, l'équipe nationale cadette du Mali ne compte plus que 26 joueurs. Le règlement de la compétition oblige ainsi le sélectionneur des cadets et son staff ont fait le choix délibéré de libérer 4 éléments. La liste définitive des Aiglonnais sera dévoilée ce jeudi et le technicien souhaite livrer 3 matchs amicaux avant son départ en Algérie. Pour mémoire, la phase finale de la CAN se déroulera du 29 avril au 19 mai. Le Mali est logé dans le groupe C basé à Annaba et affrontera le Cameroun, champion d'Afrique en titre, le Burkina Faso et le Soudan du Sud lors de la phase initiale. Basé en Algérie, la Poule A met aux prises l'hôte du tournoi l'Algérie, le Sénégal, le Congo et la Somalie. Alors que le Nigeria, le Maroc, l'Afrique du Sud et la Zambie s'affrontent dans le groupe B à Constantine. Les deux premiers de chaque poule et les meilleurs troisièmes de toutes les poules accéderont au quart de finale. Les quatre demi-finalistes valideront leur billet pour la Coupe du Monde U17 programmée du 10 novembre au 2 décembre 2023 à Pérou. Les Aiglonnais savent ce qui les attend dans ce tournoi, à eux de bien chausser les crampons.
Merci beaucoup Amadou Tolo pour ce récit. Voilà mesdames et messieurs, c'est ce qui met un point final à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés sur Djoliba FM.